C'est notre dernier dimanche avec vous. C'est avec le cœur serré. Je pense que ma femme et moi, nous allons repartir sur Paris. Même si on est content de retrouver, nous sommes contents de retrouver les frères et sœurs là-bas, à Paris. Ils font partie de notre vie depuis de nombreuses années. Mais vous aussi, vous faites maintenant partie de notre vie et c'est vraiment avec beaucoup d'étreinte, je crois, qu'on quitte et la belle région et surtout les frères et sœurs qui sont dans cette région. Mais bon, nous savons que nous faisons partie de la même famille et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait de pouvoir passer ce temps ici. Nous mesurons ça vraiment comme une grâce d'être là et de pouvoir partager avec vous la parole. Et vous savez que votre pasteur est à Saint-Denis ce matin, et il prêche à Saint-Denis. Donc on a fait un échange, c'est comme si on avait fait un échange ici aujourd'hui. Voilà. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu. Alors, on est resté beaucoup dans Matthieu ces temps derniers. Évangile de Matthieu, chapitre 6. On a vu ces dimanches derniers un peu le rapport à différents rapports du disciple avec l'évangile, avec Christ. On avait vu le disciple et la nouvelle naissance. On avait vu le disciple et son rapport avec l'église. On a vu la dernière fois le disciple et sa consécration. Puis aujourd'hui, bon, on pourrait laisser peut-être pas la même chose, pas une continuité, mais quand même, Jésus parle à ses disciples, et il leur parle d'une attitude que les disciples doivent bannir de leur cœur. Et je vais donc vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 6, et à partir du verset, on aurait pu commencer à partir du verset 19, mais que tout ça c'est un seul ensemble, mais on va commencer à partir du verset 25, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Et écoutez, c'est la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Voilà, donc je pense que je n'ai pas besoin de parler beaucoup pour que vous puissiez comprendre que le texte parle de l'inquiétude et surtout de l'interdiction de s'inquiéter pour qui est un disciple de Christ. C'est ce que nous voyons ici. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Verset 27 déjà, il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et puis verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et donc on voit plusieurs fois où Jésus insiste sur le fait que le disciple de Christ ne doit pas s'inquiéter. Qu'est-ce que s'inquiéter? On peut commencer par là pour dégrossir un peu les choses. J'ai regardé dans le Larousse, hein, et il est dit que c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et par l'incertitude. Donc le sens du verbe dans le grec signifie être tiraillé entre plusieurs directions. Un petit peu, c'est le sens que cela a. Et aussi, ça a le sens parfois de prendre soin. On s'inquiète de quelque chose, c'est que l'on prend soin. Celui, on doit s'inquiéter de notre famille, par exemple. Donc il y a aussi ce sens-là. Mais ici, le sens que j'utilise, c'est vraiment ce sens où il décrit un état d'esprit instable qui se trouble à cause, on va dire, de manque de visibilité sur l'avenir. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors, on tiraille son esprit, on mène des débats en son esprit. Et c'est contre cette disposition, on pourrait dire, mentale, que Jésus enseigne à ses disciples ici. Et donc, est-ce que cela est pertinent pour nous aujourd'hui? On pourrait dire à l'époque de Jésus, visiblement, les gens s'inquiétaient pour la nourriture et le vêtement. Hein? Et si Jésus, on a déjà dit ça plusieurs fois ici, hein, si Jésus donne un commandement ou une interdiction, s'il dit ne faites pas quelque chose, c'est parce que naturellement, on fait cette chose. Il faut comprendre comme ça, hein, quand on lit la Bible. Quand Jésus dit ne fais pas cela, c'est que naturellement, on est poussé à le faire. Donc s'il dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, c'est parce que naturellement, le cœur de l'homme a tendance à s'inquiéter. Il y a un auteur qui dit que tous sont capables de ce qui est interdit. On est tous capables de faire ce que le Seigneur Jésus interdit. Donc c'était certainement quelque chose qui pouvait comment dirais-je, animer le cœur des disciples. Rappelez-vous, il y a un moment où ils sont là, il y a plein de gens, et puis ils disent, que ferons-nous? Cette foule est là, elle n'a pas mangé, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Et Jésus leur reproche de ne pas se rappeler des miracles qu'il a faits. Donc il leur reproche leur cœur qui s'inquiète. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on s'inquiète? Peut-être vous dites-moi, je ne suis pas quelqu'un inquiet, hein? Il y a des gens qui sont de naturel inquiets, puis d'autres qui sont pas tout à fait, hein, qui ne sont pas inquiets, qui voilà, ils prennent la vie comme elle vient. J'ai lu sur Internet qu'en 2017, les Français ont été désignés les champions du monde de l'inquiétude et du repli sur soi. Ouais. On bat tous les records, on bat toujours des records, nous Français. On a toujours été responsables de quelque chose et on est les champions du monde pour râler, les champions du monde pour plein de choses. Je pense que ce n'est pas que les Français qui sont les champions du monde, hein. C'est tous les hommes, en général, je pense, sont sujets de plus en plus aux inquiétudes. Les problèmes économiques, l'insécurité, la faiblesse du marché de l'emploi, tout ça sont des facteurs qui accroissent bien souvent notre inquiétude. Et l'homme moderne est un homme qui s'inquiète pour tout. Il s'inquiète pour son travail, il s'inquiète pour sa retraite, il s'inquiète pour sa sécurité. Il s'inquiète même pour la météo. Hein. Et vous voyez combien de fois ça fait partie de nos sujets de discussion. Hein. Est-ce qu'il fera beau demain? Est-ce qu'il ne fera pas beau demain? Et on s'inquiète pour toutes sortes de choses. Et le chrétien, malheureusement aussi, est sujet à l'inquiétude, à cette sorte de débat, de confrontation, de tiraillement concernant l'avenir et peut-être même concernant la nourriture et le vêtement. Alors, est-ce qu'on s'inquiète pour la nourriture et le vêtement? Avec ma femme, on parlait hier et elle disait, quand on va dans les centres commerciaux, qu'est-ce qu'on trouve le plus? C'est les magasins de nourriture et de vêtements. Pensez-y, hein? Ouais, surtout pour les vêtements pour femmes. Les hommes, on ne trouve pas beaucoup, mais les femmes, on en trouve plein. Hein? D'accord? Des fois, on enlève un magasin de quelque chose pour mettre un magasin de vêtements. Hein? Et donc, les vêtements et la nourriture sont deux choses qui nous préoccupent. Même si on est dans l'abondance de ces choses, ce sont quand même des choses qui nous préoccupent. Mais d'une manière générale, Jésus veut montrer ici que le disciple de Christ n'a pas à s'inquiéter pour les choses basiques même de la vie. Et donc c'est un non-sens pour les citoyens du royaume des cieux de de s'inquiéter. Jésus va même plus loin. Il dit que l'inquiétude doit être bannie et elle doit être interdite. Le chrétien interdit, il est interdit d'inquiétude. Il ne doit pas s'inquiéter. C'est un péché que de s'inquiéter. Alors Jésus énonce le principe général que nous avons vu au verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Alors bien sûr, Jésus ne dit pas ici qu'il ne faut pas être prévoyant et penser à sa famille. Il ne dit pas qu'il faut être insouciant, qu'il ne faut pas se lever le matin pour ne pas aller travailler et puis dire, moi, je ne m'inquiète de rien. Dieu, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il nous a dit dans la Bible, il nous dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et pour les paresseux, Jésus nous envoie même voir la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux, et considère ses voies. Donc, on a à accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. On a à travailler. Il faut être prévoyant. Il faut épargner. On a des enfants. Il faut penser à leur avenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à l'avenir. Ce n'est pas ça que Jésus dit ici. Mais il dit qu'on ne doit pas se torturer l'esprit, hein, se rendre malade parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Et on est tout le temps inquiet. On est dans un état instable parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire demain. Il dit que l'enfant de Dieu ne doit pas agir de cette manière-là. Et le Seigneur montre même que ce qui est à la base de l'inquiétude, c'est le manque de foi. Regardez au verset 30, il dit, Jean, comment il qualifie, pour la seule fois où il qualifie les gens qui sont inquiets, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce sont des gens de peu de foi. Comment on dit? Donc c'est l'absence, on a parlé de la foi ce matin, hein, que Dieu donne, hein. Donc le manque de foi est ce qui est à la base de l'inquiétude et de l'anxiété. Et donc ce que Jésus fait ici, c'est qu'il vise dans cet enseignement à rétablir la foi en Dieu. Puisque le manque, puisque l'inquiétude est à sa base le manque de foi, donc Jésus va dire des choses pour rétablir la foi en Dieu. Et si vous regardez la structure un peu de ce passage, il y a au début, c'est pourquoi, verset 25, ne vous inquiétez pas, donc le c'est pourquoi est rattaché à ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le verset 24, qui dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc ici, il rattache cela et dit, c'est pourquoi, ne vous inquiétez pas. Et puis au verset, si vous regardez au verset 31, il est dit, ne vous inquiétez donc point. Et donc le donc se rapporte bien sûr à ce qui vient aussi avant, c'est-à-dire verset 26 jusqu'au verset 30, hein, où Jésus parle un certain nombre de choses. Il dit, et à cause de cela même, c'est comme s'il disait, à cause de cela même, ne vous inquiétez pas. Et puis enfin, au verset 34, où il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et cette conclusion, si vous voulez, se rapporte au verset 32 et 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez pour moi le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas du lendemain. D'accord? Car le lendemain aura soin de lui-même. Donc ça, c'est un peu la structure du texte. On ne va pas forcément rester sur cette structure, mais en tout cas, ce que Jésus fait à travers cela, c'est qu'il donne à ses disciples les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas s'inquiéter. Les raisons pour lesquelles le chrétien ne doit pas s'inquiéter. Et il va chercher, je le crois, à rétablir un certain nombre de vérités. Et donc, premièrement, nous pouvons voir que Jésus établit, en tout cas, propose à ses disciples de méditer sur les vérités concernant Dieu. Les vérités sur Dieu. Le grand but du message est, je pense, de recentrer le disciple sur Dieu. Sa confiance en Dieu. Parce que c'est le manque de confiance en Dieu qui nous entraîne, qui développe l'inquiétude. Ici. Donc l'inquiétude entraîne bien souvent une perte de vue, hein, des réalités concernant Dieu. Et la première chose que l'on peut voir ici, c'est que, on peut le résumer ainsi, c'est que Dieu, qui est l'auteur de la vie, s'occupe des moyens de maintenir la vie. Dieu, qui est l'auteur de la vie, s'occupe des moyens de maintenir la vie. Jésus dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est comme s'il dit, vous êtes anxieux pour la nourriture qui maintient la vie. Vous êtes anxieux pour le vêtement qui couvre le corps. Mais avez-vous pensé à la vie et au corps? Qui a fait la vie? Qui a donné la vie? Qui a formé le corps? N'est-ce pas Dieu? Et donc il est en train de dire, c'est Dieu qui a pourvu cette vie et ce corps. Et pensez-vous qu'il va laisser cette vie et ce corps à l'abandon et qu'il va laisser livrer à eux-mêmes? En fait, Dieu veille à la subsistance de ce qu'il crée. Et ça, c'est quelque chose que le disciple doit méditer. Dieu veille à la subsistance de ce qu'il crée. Il est puissant pour le faire. La Bible dit, de génération en génération, le psaume 119, ta fidélité subsiste. Il dit, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Il dit, c'est d'après telle loi que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Donc Dieu, voilà un premier encouragement qui pourrait nous aider quand on est craintif, anxieux, c'est que il se demandait, est-ce que les choses vont... Dieu a le pouvoir de garder la vie. Celui qui a créé la vie a le pouvoir de la garder. Donc dans le domaine de l'écologie, on pousse parfois le bouchon un peu loin en nous faisant croire que en faisant ceci ou cela, ou en consommant comme si, du bio par-ci, du machin par-là, en roulant à 70 km/h au lieu de rouler à 80 km/h, on sauvera la planète. Si vous voulez sur autoroute, vous allez voir, roulez moins vite, vous sauverez la planète. Certainement qu'on polluera moins. Mais nous ne sommes pas les sauveurs de la planète. Nous ne serons jamais les sauveurs de la planète. Parce que c'est Dieu qui a créé l'univers, qui maintient l'univers. Il a le pouvoir de maintenir ce qu'il a créé. Et maintenant, on voit des hommes qui sont beaucoup plus soucieux de sauver la planète que de sauver leur âme. Et on va faire tout, on pense, on est devenu à la place de Dieu, ceux qui, voilà, qui sont les gardiens, les garants de la vie de la planète. Pas du tout. Pas du tout. Dieu dit que cette terre, elle est vouée au feu, les éléments embrasés se dissoudront. Quand il aura décidé, ça se fera. Mais tant qu'il n'a pas décidé, la terre subsistera. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter n'importe comment. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ce n'est pas parce que Dieu dit de ne pas s'inquiéter qu'il faut rester dans son lit et ne pas aller travailler. Donc ce n'est pas parce qu'il dit que tout subsistera qu'il faut faire n'importe quoi. Mais il ne faut pas penser. Il ne faut pas penser que le monde subsiste grâce à l'homme. Le monde subsiste grâce à Dieu. Parce que la Bible dit que c'est d'après telle loi que tout subsiste aujourd'hui. Ça, c'est une chose que l'on doit absolument intégrer. En Genèse, chapitre 8, verset 22, vous savez, après le déluge, Dieu dit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » N'en déplaise à ceux qui parlent de réchauffement climatique, il y aura toujours un hiver, toujours un été, toujours le froid, toujours le chaud, toujours la nuit, toujours le jour, tant que la terre subsistera. C'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, bien sûr, on peut voilà, faire des choses pour mieux consommer, pour mieux dépenser, etc., pour mieux économiser, mais jamais, jamais, l'homme doit penser qu'il est à la place de Dieu et que c'est grâce à lui que les choses subsistent. Et c'est quand on pense comme cela qu'on est dans l'inquiétude. On a peur que les hommes fassent trop par ici, on a peur que les Chinois consomment trop par là, on a peur que les Américains fassent trop par ici. Et voilà. Et c'est Dieu qui maintient toutes choses. Et il a promis que rien ne manquera tant que la terre subsistera. Il dit donc, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et ce que Jésus avance comme principe ici, c'est que si Dieu a fait le plus, il peut faire le moins. S'il a créé la vie, il peut faire ça. Vous, on est capable de faire des choses pour maintenir un peu les choses, hein, nous. Mais on ne peut pas créer. D'accord? Dieu, il a créé, il a fait le plus. Croyez qu'il peut faire le moins en gardant la vie. Et donc, en tant que chrétien, voilà, Dieu peut nous garder. Il nous a donné un corps. Il sait que le corps a des besoins. Il nous a donné une vie. Il nous donnera tout ce qu'il faut pour cette vie et tout ce qu'il faut pour ce corps. Nous devons croire cela. Et c'est un principe qu'on trouve dans la Bible. Romains chapitre 8, verset 32 dit, « Lui, en parlant de Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Vous voyez? On est là, celui qui Dieu peut beaucoup, celui qui Dieu qui peut beaucoup de grandes choses, peut aussi des choses plus simples. Il a donné son Fils, ça c'est extraordinaire pour nous. Il n'a pas épargné son propre Fils, celui avec lequel il était dans une relation éternelle. Il l'a crucifié pour nous. Il dit, pourquoi pensez-vous qu'il ne vous donnera pas les choses de la vie en Jésus-Christ, bien sûr. Comme ça nous a été rappelé ce matin, c'est en Jésus-Christ que nous avons toutes choses. Cela doit rester dans vos pensées. Donc Dieu qui est l'auteur, je rappelle ce point, de la vie, s'occupe des moyens de maintenir la vie. Deuxièmement, je pense dans ces réalités sur Dieu, Jésus montre que Dieu qui est impliqué auprès des moindres éléments de sa création, l'est aussi auprès de ses enfants. Dieu qui est impliqué auprès des moindres éléments de sa création, l'est aussi auprès de ses enfants. Ça, c'est une seconde vérité que Dieu s'implique auprès de toute sa création et particulièrement auprès de ses enfants. Et donc, l'argument de Jésus, cette fois, est de montrer que si Dieu s'occupe avec un tel soin de ce qui est de moindre importance dans sa création, à combien plus forte raison va-t-il s'occuper des besoins de ses enfants, de ce qui a une plus grande importance? Il va le faire avec deux illustrations pour traiter cette question de la nourriture, par exemple, et du vêtement. Et donc, pour faire saisir ces vérités, il va faire un petit peu d'ornithologie. Savez-vous ce que c'est que l'ornithologie? C'est l'étude des oiseaux. Le frère qui vient après moi ici, le frère Désil, il est amateur des oiseaux. Vous pouvez lui poser des questions. Hein. Il est venu chez nous il n'y a pas très longtemps. Il était à dormir à la maison et il m'a dit, mais tu as un oiseau vert dans ton jardin là. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Je ne le connais pas parce que je connais un petit peu, mais celui-là, je ne connais pas. Et moi, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un oiseau vert dans le jardin. Donc quand il est parti, je regardais, effectivement, j'ai vu cet oiseau, il y en avait pas mal. J'ai essayé de photographier, je ne savais toujours pas ce que c'était. Mais il avait le coup d'œil pour observer les oiseaux. Et Jésus dit à ses disciples, observez les oiseaux. On va faire un petit cours d'ornithologie et puis aussi un petit peu de botanique. Il va les amener au niveau des fleurs. Non pas d'un point de vue scientifique, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus ici, mais d'un point de vue théologique. Il va donc leur proposer d'observer, de méditer et de conclure. Et ça, c'est quelque chose que nous devons aussi apprendre à faire. Observer peut-être ce qu'il y a dans la nature autour de nous, réfléchir, méditer sur ces choses, et puis tirer des conclusions qui sont justes. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume chapitre 19 et au verset 1. Donc, nous pouvons voir dans la création de Dieu des choses qui peuvent nous conduire dans comment Dieu nous aider à comprendre comment Dieu agit. Bien sûr, la révélation générale de la création à elle seule ne suffit pas. Il faut la révélation spéciale de la parole. C'est même elle qui nous guide et qui nous montre comment lire dans la révélation générale de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier d'observer. Jésus observait beaucoup. Il prenait beaucoup d'exemples sur la nature, les oiseaux, les arbres, hein. Les animaux. Et donc ici, il parle des oiseaux, il dit verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Voilà des animaux ici qui ne s'inquiètent pas pour leur nourriture. Vous avez jamais vu des oiseaux inquiets? Ah ouais, bien sûr, il y a des gens, des scientifiques qui disent, ouais, cet oiseau, il est un peu inquiet. Je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent. Mais pas, ils pensent pas, je ne pense pas que l'oiseau pense à l'avenir, à comment il va manger, etc. Jésus dit, voilà, l'oiseau, il s'occupe pas de tout ça. Il ne prévoit rien, il ne sème pas. J'ai jamais vu un oiseau avec son sac de grains en train de semer pendant l'automne. Non, ça ne marche pas. Il ne fait pas ça. Il n'amasse pas dans les greniers. Il ne moissonne même pas. Il n'amasse pas dans les greniers. Mais il dit, pourtant, votre Père Céleste les nourrit. Et si vous regardez, vous avez bien vu que les oiseaux, ils meurent pas de faim. Moi, j'ai un cerisier dans mon jardin. Et j'avais de belles cerises bien rouges. Et là, je me suis dit, oh là là, ça va être. Et puis, je voyais des oiseaux qui venaient dans l'arbre et puis qui commençaient à prendre un peu. Et j'étais pas très content. Hein. Alors, je tapais des mains pour qu'ils puissent partir. Je faisais du bruit. Ils partaient, mais après, ils revenaient. Et j'avais envie de leur dire, mais ça va pas, non? C'est moi qui ai creusé ce sol. C'est moi qui ai planté cet arbre. J'ai arrosé. Et puis maintenant, ça porte des fruits. Et puis là, ils arrivent, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas semé, ils n'ont pas moissonné. Et puis, ils picorent. Et je me suis dit, s'ils pouvaient me parler, ils me diraient, ouais, mais ton Père céleste qui est dans les cieux me nourrit. Hein? Et c'est pour ça que je vais dans cet endroit. C'est ce que Jésus dit ici. Hein? Il dit, pensez à ça. Pensez quand vous êtes dans la nature. Pensez aux oiseaux. Regardez comment ils font. Ils ne s'inquiètent pas. Et pourtant, Dieu les nourrit. Et il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est Dieu qui nourrit les animaux. Alors, je regardais quelque chose hier sur les oiseaux. Il y a des gens qui disent, voilà, il faut faire ceci, cela, parce que en hiver, les oiseaux, ils mangent moins, donc il faut leur donner, il faut trouver les moyens de les nourrir, etc. Mais on peut pas nourrir tous les oiseaux qu'il y a sur la planète en hiver, n'est-ce pas? Dieu prend soin d'eux en hiver, comme en été. Et la Bible dit, il dit au psaume 104, il dit, voici la grande et vaste mer. Il y a plusieurs endroits dans la Bible, mais j'en choisis qu'un ici, hein, où il parle de cela. Il dit, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer des flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Et tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Voilà comment la Bible parle, psaume 104, des animaux. C'est-à-dire qu'il dit que Dieu s'occupe des animaux, des petits oiseaux que vous voyez. Quand vous en voyez un, dites, mais Dieu nourrit cet animal et il leur donne sa nourriture en son temps. C'est ce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Alors Dieu dit, mais vous valez beaucoup plus qu'eux. Alors pensez-vous que votre Père céleste ne va pas pourvoir à vos besoins en matière de nourriture ici? Donc celui qui s'implique auprès des plus petits éléments de sa création s'impliquent aussi auprès de ceux qui sont de plus grande importance. Et puis, deuxième exemple que je vous donne, c'est les fleurs. Il dit, verset 28, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Comment vous serez habillé? Il dit, considérez comment croissent les lys des champs. Une herbe de champ hein, qui ne fait rien, qui là, qui pousse, comme de vieilles herbes un peu, hein, ici. Et il dit, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et donc, si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Et donc, tout à l'heure, Jésus montrait la valeur particulière de ses enfants par rapport de l'homme, par rapport aux animaux. Et ici, il montre la destinée éternelle de ses enfants. Il dit que la fleur, elle est amenée à disparaître. Elle vit aujourd'hui et sera brûlée demain. Vous êtes amenés à vivre la vie éternelle auprès de moi, mes enfants. Donc il dit, pensez-vous que votre Père céleste, il dit que Dieu ne vous vêtira pas à plus forte raison. S'il fait ça pour quelque chose qui est tout à fait passager, il le fera pour vous qui êtes ses enfants. Donc Jésus insiste fortement sur ce fait que Dieu qui est impliqué auprès des plus petits éléments de la création s'impliquera aussi pour vous. Et vous n'avez donc pas de crainte à avoir. Et puis, il montre aussi que troisièmement, que c'est la volonté de Dieu de pourvoir aux besoins de ses enfants. C'est sa volonté même. Le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la volonté de Dieu de donner à ses enfants ce qu'il leur faut. À condition, bien sûr, que cela ne s'inquiète pas et qu'ils cherchent, qu'ils placent les priorités comme il faut ici. Et il arrive souvent que le chrétien doute parfois de la volonté de Dieu à son égard. Est-ce qu'il va me donner ceci? Est-ce qu'il va me donner cela? Il nous a donné du pain, est-ce qu'il nous donnera de l'eau? Quand on a quelque chose, oui, Dieu m'a donné ceci, mais pour cela, est-ce que... Et on peut mener des débats ainsi dans son cœur, dans son être, et mettre en doute la volonté de Dieu à notre égard. C'est ce qu'avait fait le peuple d'Israël. On lit par exemple au psaume 78, il parle contre Dieu. La Bible dit qu'il parle contre Dieu. Ils disent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé. Ça, ils reconnaissent, Dieu l'a fait. Mais ils disent, et des torrents se sont répandus. Et maintenant, ils ajoutent, pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Et ils mettent capacité de Dieu en doute. Dieu a donné de l'eau, ok, ça c'est pas un problème. Mais le pain, est-ce qu'il va le donner? D'accord. S'il a donné l'eau, il peut donner le pain aussi. Mais on est comme cela. Voilà. On met constamment en doute les capacités de Dieu. On doute parfois sur ses bonnes dispositions à notre égard. Et Jésus souligne que c'est la volonté de Dieu même de prendre soin de ses enfants. Et donc, il n'y a pas de raison de craindre. Et le passage qu'on a lu tout à l'heure dit la même chose. Il dit, Dieu vous donnera toutes choses en Jésus-Christ. Il vous donnera toutes choses en Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. L'apôtre Paul disait, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Pas selon la richesse humaine, qui vaut rien. Selon sa richesse, dit-il, avec gloire. En plus, regardez comment il veut le faire, de manière qui lui rende gloire, et particulièrement en Jésus-Christ. Ça, c'est important. En Jésus-Christ. Il faut être en Jésus-Christ pour être bénéficiaire de cette promesse. Et puis, quatrièmement, je voulais dire que Jésus souligne que Dieu est votre Père céleste. Ça, c'est quelque chose qui est bon de méditer. Dieu est votre Père céleste. Il dit « Votre Père céleste les nourrit ». Vous voyez ici, il ne dit pas que le Père céleste des oiseaux les nourrit. Il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste les nourrit ». C'est votre Père céleste, ce n'est pas le Père céleste des oiseaux. Dieu est le créateur des oiseaux, mais il n'est pas leur Père céleste. Dieu est le Père céleste de ses enfants. Il n'est pas le Père céleste de tous les hommes non plus. Il est le créateur de tous les hommes. Mais il est le Père céleste de ceux qui ont mis en lui leur confiance et qui sont devenus ses enfants. C'est quelque chose que de considérer le Créateur, le Maître de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. La Bible dit, Jésus dit, c'est votre Père céleste. Et un peu plus loin, verset 32, il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. On n'a pas besoin de l'informer, il sait toute chose, en tant que Père. Il sait ce dont on a besoin. Et tout le chapitre 6, si vous le lisez, le Seigneur insiste sur cette vérité que Dieu est votre Père céleste. Regardez le chapitre 6, verset 1, il dit à la fin du verset 1, déjà le chapitre 5, on a lu ça pendant les mardis, il dit, verset 45, chapitre 5, votre Père qui est dans les cieux, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Chapitre 6, verset 1 à la fin, votre Père qui est dans les cieux. Chapitre 6 et au verset 4, il dit, quand tu fais ton aumône, tu le fais en secret parce que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Chapitre 6 et aussi au verset 6, il dit, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte parce que ton Père qui est là dans le lieu secret, est ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 8, il dit, ne ressemblez pas aux païens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Chapitre 6, verset 9, il dit, notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Chapitre 6, verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Verset 15, votre Père ne vous pardonnera pas non plus si vous ne pardonnez pas à vos frères. Et puis, verset 18, il dit, mais quand tu jeûnes, eh bien, parfume ta tête, lave ton visage, verset 18, afin que de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui voit, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis, ici, dans notre chapitre 6, eh bien, il parle encore de ce Père, de ce Père céleste, verset 26 et verset 32, comme nous avons lu ici. De qui Dieu est-il le Père? De ceux, bien sûr, qui sont ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Donc, de qui? De ceux qui sont vraiment de véritables chrétiens, de ceux qui ont reçu son Saint-Esprit. Aussi, la Bible dit que l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide, hein, dans nos prières, et c'est par l'Esprit de Dieu que nous crions « Abba, Père ». Donc c'est pour cela que quand il parle ici « Votre Père céleste », il parle des chrétiens, il parle des disciples. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons crier « Abba, Père ». Je vous lis ce verset, Romains 8, versets 12 à 20 et 21, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Verset 15, il dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et l'inquiétude, bien souvent, fait oublier cette vérité, que nous avons en nous l'Esprit de Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ est un enfant de Dieu. Jésus dit donc, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas seulement en tant que Dieu, voyez, omniscient, qu'il sait nos besoins. Quand la Bible dit que Dieu sait toutes choses, n'est-ce pas? Il est omniscient. Et quand il dit, votre Père céleste sait, il ne dit pas simplement, Dieu sait, en tant que Dieu, par ses attributs. Mais il pose une connaissance qui est liée à la relation que Dieu entretient avec ses enfants. C'est votre Père qui sait que vous avez besoin. Et quand un père terrestre sait les besoins de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, c'est un bon père, il va chercher à subvenir aux besoins de ses enfants. Et Jésus dit même que le père terrestre, il agit, même méchant qu'il est, il donne de bonnes choses à ses enfants. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, écoutez ça bien, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous voyez ici, il dit votre Père terrestre sait vous donner de bonnes choses, même qu'ils sont méchants. Imaginez votre Père céleste qui est parfait, qui est bon, qui est saint, qui veut votre bien, ce qu'il est prêt à vous donner. Alors pourquoi est-ce que vous inquiétez pour la nourriture, pour le vêtement, pour les choses et ces choses et d'autres? Ça c'est donc les vérités sur Dieu. Puis Jésus, t'en passe, parle aussi des vérités sur l'inquiétude ici. Regardez au verset 27. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Il montre que l'inquiétude est stérile. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude ne produit absolument rien de bon. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, parce que ça ne va rien changer à une situation. On n'a jamais vu une situation changer simplement par le fait qu'on se soit inquiété. D'accord? Vous pouvez avoir autant de débats internes que vous voulez, ça ne changera rien à la situation. Et Jésus dit, personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. La Bible dit même que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, c'est même le contraire. D'accord? Mais une bonne parole le réjouit. Et certains sont inquiets parfois dès qu'ils prennent l'avion, dès qu'ils font... Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, faut prier pour moi parce que je prends l'avion, j'ai une peur bleue, je m'inquiète. Ça ne sert à rien de t'inquiéter. S'il doit tomber, il tombera. S'il doit arriver à bon port, il arrivera à bon port. Ça ne change rien. Ça ne changera rien. Alors on est inquiet, on fait le voyage inquiet, et on pense que parce qu'on a été inquiet, l'avion est arrivé à bon port. Jamais. On pense que parce qu'on s'est inquiété, là, notre vie va se rallonger. Jamais. Alors, on fait beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure de nourriture. Il y a des gens qui ont peur, tellement peur de mourir qu'ils épluchent toutes les étiquettes, pensant qu'en regardant tout ce qu'il y a sur les produits, ils vont pouvoir allonger leur vie. Hein. Nous n'allongerons pas d'une seule coudée, d'une seule iota, la longueur de notre vie, parce que c'est Dieu qui décide de la longueur de la vie de chacun. Et même la médecine, hein, avec tous les progrès qu'elle a faits, ne peut pas rallonger la vie de quiconque si Dieu a fixé la limite de sa vie. C'est ce que Job dit. Job dit, si les jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Hein, pas, il dit alors, donne-lui un petit peu de répit parce que sa vie est déjà limitée. Quand il parlait de lui-même, qu'il souffrait tellement, il dit, Dieu, laisse-moi respirer parce que tu as fixé déjà le terme de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas franchir ce que tu as fixé. Dieu fixe les limites. Et aucune inquiétude ne peut rallonger la vie de quiconque. Aucun sport, même le crossfit, hein, c'est ça là qui est à la mode, je crois. Hein. C'est ça, non? Ça peut pas. Ah, ça fait du bien, certainement. Ça fait du bien de bien manger. Je dis, il faut bien manger. Il faut manger des tomates du jardin. Il faut faire des choses qui sont saines. Il faut faire du sport, il faut faire de l'activité, etc. Mais il ne faut pas penser que je vais rajouter quelque chose à ce que Dieu a déjà fixé. Alors, je n'ai pas de crainte à avoir. Que je m'inquiète ou pas, quand Dieu m'appellera, il m'appellera. Donc, ça, c'est une vérité qu'il faut bien sûr garder. En tête, l'inquiétude est stérile. On ne peut rien changer avec l'inquiétude. L'inquiétude traduit, on l'a déjà dit, un manque de foi en Dieu. Passez vite là-dessus parce que Dieu dit au verset 30, il les appelle gens de peu de foi. C'est-à-dire que ces gens ont une petite foi. Leur compréhension de la providence de Dieu et de sa souveraineté est fragile. Parfois, on dit oui, Dieu est grand, Dieu est Dieu, est Dieu. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose, on s'inquiète. C'est contradictoire. Si Dieu est grand, voilà, hein, il est souverain. Bon, on n'a pas à avoir d'inquiétude quand les éléments semblent nous indiquer le contraire. L'inquiétude est la marque distinctive du païen aussi. Regardez ce que Jésus dit au verset 31, au verset 32, pardon. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, s'inquiète de ces choses, s'inquiète de la vie. Mais le chrétien qui connaît Dieu ne doit pas s'inquiéter. Une différence doit exister entre celui qui professe être un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Et cela doit se montrer dans le fait qu'il ne s'inquiète pas concernant sa vie. C'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Plusieurs fois, il dit, vous ne devez pas vous inquiéter. Si vous vous inquiétez, vous agissez comme un païen. Et donc, vous gâchez votre témoignage. Et puis, c'est pas dit ici, mais on pourrait ajouter que l'inquiétude est un obstacle à la pénétration de la parole dans le cœur. Matthieu 13, verset 22, vous vous rappelez de des paraboles des terrains. Il y a un terrain, Jésus dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, hein, les inquiétudes, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. C'est un peu la même chose ici, parce que si vous regardez le début de notre passage, il parle des richesses, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors dans le ciel, où la terre et la rouille peuvent sévir. Donc là, il parle des richesses. Et puis, après, ici, il parle des inquiétudes qui naissent avec tout cela. Et ici, le passage de Matthieu, il dit, ce sont les soucis du siècle et la séduction des richesses qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc l'inquiétude est un obstacle à la pénétration de la parole dans le cœur. On a un merveilleux exemple de ça dans le livre de l'Exode, où Moïse annonce au peuple leur délivrance de l'Égypte, la délivrance future de l'Égypte. Et la Bible dit ceci, Dieu dit à Moïse, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous serez Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est beaucoup de choses que Dieu dit ici. Et écoutez la suite. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous imaginez toutes les promesses que Dieu fait à ce peuple. Il dit, voilà ce que je vais faire. Je vais vous prendre, je vais vous sortir de l'Égypte, je vais vous mettre dans un pays où coule le lait et le miel. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Voilà ce que je vais faire avec vous. Mais ils sont tellement dans l'angoisse, dans l'inquiétude. La Bible dit qu'ils sont empêchés d'écouter les paroles de Moïse. Et l'inquiétude nous empêche de croire, nous empêche d'écouter même. Et c'est un obstacle à la pénétration de la parole de Dieu dans notre propre vie. Et donc c'est pour cela que nous devons bannir l'inquiétude. Marthe, vous vous rappelez de Marthe et Marie? Marie est au pied du Seigneur, elle écoute sa parole. La Bible dit que Marthe, eh bien, elle est occupée à divers soins domestiques. Et à un moment donné, elle n'en peut plus. Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'en peut plus. Et elle vient auprès de Jésus et elle dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Elle est là en train d'écouter ta parole. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mais il y a du travail à faire aussi à la maison. Il ne faut pas oublier cela. Et Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Oui. Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes, Marthe, pour beaucoup de choses. Et parfois, on est comme ça, on s'inquiète. Il faut faire la cuisine, on a des invités aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait parfois? On ne vient pas au culte le dimanche parce qu'il faut préparer la popote. Ça arrive, hein? C'est plus important de préparer la nourriture que de s'asseoir avec les frères et sœurs, adorer le Seigneur. Jésus dit à Marthe, on va faire un sandwich, c'est pas grave. Marie a choisi ce qui est le plus précieux, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour toutes ces choses? Et on est comme ça, n'est-ce pas? Et l'inquiétude de Marthe par rapport à l'accueil qu'elle voulait faire à Jésus-Christ, à la nourriture, bien la priver d'écouter la parole de Jésus, ce que Marie a pu faire. Donc vous voyez que l'inquiétude aussi, chers frères et sœurs, peut être un obstacle à la pénétration de la parole. Et puis très rapidement, comme c'est la dernière fois que je suis là, donc vous serez patient avec moi, vous l'avez été. Hein. Jésus montre la vérité sur le disciple. Donc la vérité sur Dieu, la vérité sur l'inquiétude et la vérité sur le disciple. Et il montre premièrement la valeur, sa valeur aux yeux de Dieu. Jésus dit, si on reprend notre texte, d'observer les oiseaux du ciel, votre Père Céleste les nourrit, et dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il faut que nous saisissions ces choses. L'enfant de Dieu a une grande valeur aux yeux de Dieu. Dans le monde aujourd'hui, on cherche à placer l'homme et l'animal sous le même plan, n'est-ce pas? On nous dit même que nous sommes des singes extrêmement évolués. Dieu maintient une hiérarchie dans sa création. Les hommes sont créés à l'image de Dieu, pas les oiseaux, pas la fleur, les hommes. Et il dit, l'homme a une grande valeur aux yeux de Dieu, mais particulièrement, les enfants de Dieu, ceux qui ont foi en Jésus-Christ, ceux qui l'ont racheté, ont un prix extraordinaire à ses yeux. Ce que Jésus dit, vous valez beaucoup plus qu'eux. Il y a même un verset qui dit qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Même leur mort, tout ce qui les concerne, a du prix aux yeux de Dieu. Ça, c'est une chose que le chrétien doit méditer. J'ai une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ma valeur est attachée au fait que je suis un enfant de Dieu. Pas au fait que je sois un grand personnage dans le monde. Ou pas au fait que je sois pauvre. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont pauvres, ils sont plus aimés de Dieu et que les riches ne sont pas aimés. Ça n'a rien à voir. Dieu aime autant l'un que l'autre. Ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on a Christ ou pas. Si on est un enfant de Dieu, que l'on soit riche ou l'on soit pauvre, on est précieux aux yeux de Dieu. Quel que soit l'endroit de la planète où l'on habite. Et puis, deuxième vérité que Jésus soulève sur le disciple, c'est sa destinée éternelle. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Cela est important aussi de retenir que nous, notre destinée éternelle est assurée. C'est ce que Jésus montre ici. Il dit, vous êtes amenés à vivre la vie éternelle. L'apôtre Pierre dit, vous êtes gardés par Dieu dans la foi. Vous êtes réservés, hein, préservés pour le salut qui sera manifesté. Il faut que le chrétien médite ces choses. Sa position en Christ, le fait qu'il a la vie éternelle à laquelle il est destiné auprès du Seigneur. Et puis, troisième chose, il doit méditer aussi sur sa priorité. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est important. Voilà comment il faut, ce que doit faire le chrétien. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les choses qui concernent Dieu, les choses qui concernent son royaume. Avoir une vie de piété, c'est ce que Dieu commande ici. Et toutes les autres choses nous seront données. Mais ça, c'est notre priorité. Le païen recherche ces choses, manger, boire, etc. Il dit, le disciple recherche premièrement le royaume de Dieu et, la justice de Dieu. Et puis, quelques conclusions, mots de conclusion pour terminer. Voilà, je voudrais dire que le Seigneur montre voilà, à quel point il est déshonoré lorsque le disciple s'inquiète. Parce que l'inquiétude du disciple est un manque de foi, la manifestation de manque de foi. Dieu, nous devons, pour éviter cela, maintenir en notre esprit les vérités qui concernent Dieu que nous avons vues. Dieu maintient la vie. Il crée la vie, il la maintient, il a le pouvoir de le faire. Dieu est impliqué dans les plus petits éléments de sa création. Il est aussi auprès de ceux qui sont les plus importants, particulièrement auprès de ses enfants. Dieu est le Père céleste qui sait de quoi nous avons besoin. Ces choses doivent faire l'objet de notre méditation. Ce que nous sommes aussi en lui doit faire l'objet de notre méditation. Et ce qu'est l'inquiétude, ce à quoi cela conduit, doit faire aussi l'objet de notre méditation. Et donc, que le Seigneur nous aide dans cela. Il faut aussi noter que l'importance vitale d'une chose ne suffit pas à faire d'elle l'objet de mes préoccupations. Manger, s'habiller, c'est vital pour nous. Même si c'est vital, cela ne doit pas faire l'objet particulier de mes préoccupations, c'est-à-dire au point où je m'en inquiète. Et puis, le Seigneur exige, quand il dit cela, on revient à chaque fois à la même chose, mais quand le Seigneur écrit cela, c'est qu'il exige de ses enfants qu'ils obéissent dans ce domaine. Si Dieu dit, ne vous inquiétez pas, il s'attend qu'à une seule chose, c'est à ce que nous obéissions. Ce n'est pas une information qu'il nous donne, c'est un commandement qu'il nous donne. Et il donne ce commandement à ses enfants, parce qu'il dit, il parle de votre Père céleste, il s'adresse particulièrement aux chrétiens. Mais si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous avez tout lieu de vous inquiéter. Parce que votre avenir n'est pas assuré. Et donc, la perspective n'est pas claire. Mais si Jésus le dit et que vous êtes encore en vie, c'est que vous pouvez aujourd'hui venir à lui. Aujourd'hui même. Et il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais vous pouvez venir à Jésus-Christ et faire partie de son troupeau, faire partie de son peuple. Et Jésus-Christ vous appelle ce matin à venir à lui. Considérez ces choses sérieusement. Considérez ces choses sérieusement. Le chrétien doit obéir aux exigences du Seigneur en se préoccupant des choses du royaume, en ayant recours au Seigneur. Et je voudrais terminer avec ce verset. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Donc que ce soit l'attitude de nous, enfants de Dieu. Et si, je le répète, vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, aujourd'hui est le temps, vous pouvez le faire, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, afin d'être son enfant, et de pouvoir être au bénéfice de toutes ces promesses qui ont été citées ici. prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci parce que ta parole nous révèle encore une fois des exigences, mais dans ta grâce, tu nous donnes de quoi vivre ces choses. Merci parce que ta parole établit si nettement une distinction entre le païen et celui qui est ton enfant. Mais en même temps, tu tends la main, tu appelles pour que celui qui ne te connaît pas puisse devenir ton enfant. Merci pour ces grâces que tu manifestes envers nous. Merci pour cette assurance que tu nous donnes et bannis de nos cœurs l'inquiétude, Seigneur. Aide-nous à ne pas promener des regards inquiets parce que tu es notre Dieu. Dirige-nous, nous t'en prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.